Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des juges, au chapitre 3. Nous avançons bien sûr lentement, mais sûrement. On va finir, je l'espère bien, ce chapitre 3 ce soir. Nous avons donc vu cet événement avec ce juge du nom de Ehud à partir du verset 12 dans le chapitre 3 comment eh bien il a pu amener la libération du peuple contre Moab. Donc la semaine dernière, on a dû voir cette question par rapport à une question morale, par rapport à l'usage de la violence que nous voyons dans l'Ancien Testament. Donc ce soir, on doit avoir une autre question, c'est celle du mensonge. Donc Juges chapitre 3, nous avons vu à partir que Ehud a pu présenter se présent à Aiglon et que avec cette délégation, à un moment donné, ils sont sortis, puis Ehud va revenir vers Aiglon en lui disant, au verset 10, 19, j'ai quelque chose de secret à te dire. Et donc là, le roi, bien sûr, silence, allez, tout le monde sortait. Il ne reste plus que Aiglon et Ehud dans la pièce. Et alors que Aiglon se rapproche de Ehud, eh bien, Ehud va en profiter pour l'assassiner, lui planter une lame dans l'estomac. Donc, on avait déjà répondu à la question de la violence, mais il nous fallait voir cette question du mensonge. Parce qu'effectivement, à aucun moment, on ne voit Ehud dire quoi que ce soit à Aiglon. Certains vont voir ici une ruse, une stratégie. Certains vont voir ici le moyen, eh bien, de parvenir à ses fins. Mais la question demeure toujours parce que c'est vrai que certains se disent que ça va pas. Si Dieu demande de faire des choses que lui, il condamne, c'est pas normal. Donc la question de Dieu approuve-t-il le mensonge pour que son plan s'accomplisse, c'est une question qu'il nous faut nous poser ici à la lecture de ce passage et nous demander est-ce que Ehud a menti? Alors il y a plusieurs arguments qui ont été présentés pour pouvoir expliquer ici ce passage. Premièrement, il n'y a rien qui n'indique dans le texte qu'il ait reçu un message de la part de l'Éternel pour Aiglon. Peut-être que l'Éternel lui avait effectivement donné un message. On ne sait pas. Peut-être que ça n'a pas été retranscrit. Il y a un certain mystère par rapport à cela. Peut-être que ce message était tout simplement l'annonce du verdict, du jugement de l'Éternel contre Aiglon. On ne sait pas. On ne peut pas forcément être catégorique ici sur le fait qu'Ehud ait menti ou non. Mais quand on lit ce passage, la première chose qui nous vient vraiment à l'esprit, c'est il a quand même menti. Il a quand même fait croire au roi qu'il avait quelque chose de secret à lui dire et il ne lui a rien dit et planté son épée dans l'estomac. Alors c'est sûr que nous n'avons pas tous les détails de ce récit. Il y a certains, et on va voir verset 31. On n'a pas beaucoup de détails sur Shamgar, si ce n'est que, voilà, c'était le fils d'Anath qui a battu 600 hommes, des Philistins, avec un aiguillon à bœuf. C'est tout ce qu'on sait. Alors, il y a des récits comme ça où on ne va pas forcément avoir tous les détails qui vont nous être donnés, mais surtout, parfois, c'est surtout le fait de ce qui a été accompli, qui est souligné. Mais si Ehud a effectivement menti, en employant cette ruse, visant à gagner la confiance du roi et à créer un moment de vulnérabilité, alors comment est-ce que nous pouvons concilier cela avec le fait que nous servons un Dieu qui est saint et qui a en horreur le mensonge? Est-ce qu'on peut simplement balayer ça de la main et lui dire, bon, c'était pas si grave que ça. Le résultat, c'est quand même qu'il a pu libérer Israël. Est-ce qu'on peut pour autant excuser le péché du mensonge? Je crois encore une fois, comme on l'avait déjà établi la dernière fois, qu'il faut faire cette différence entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. Cette différence entre ce que les hommes choisissent d'accomplir et ce qui nous est décrit dans les événements par rapport à ce que l'Éternel a demandé d'accomplir. De différencier donc entre ce qui est autorisé et aussi ce qui est ordonné. Rappelons-nous que Dieu, dans sa souveraineté, accorde à l'être humain ce libre arbitre. Souvent dans les Écritures, l'Éternel a dit, tu vas faire ceci, mais il laisse aussi la liberté à la personne, le moyen d'accomplir cela, de trouver le moyen d'accomplir cela. Et donc, pour nous, c'est important, hein, de souligner cela, parce que oui, ce libre arbitre, il est important ici dans ce passage. Si effectivement il y a eu mensonge ici, et que nous concilions cela avec le fait qu'il y ait ce libre arbitre, qui est donc responsable du mensonge? C'est Ehud. C'est Ehud qui a fait ce choix, hein, tactique, certes, mais qui a fait ce choix de ruser, de mentir, pour parvenir à être seul avec Eglon et lui asséner le coup fatal. Mais on ne peut pas concilier ça avec le fait que l'Éternel lui aurait ordonné de mentir pour arriver à être seul avec Eglon. Le recours à la tromperie, même pour accomplir cette mission confiée par Dieu, n'est certainement pas la voie à suivre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Dieu est saint, il est la vérité, et dans multiples passages, hein, nous voyons combien le mensonge est quelque chose dont il a vraiment horreur. Et donc, contrairement à cet adage, hein, plutôt machiavélique, hein, la fin ne justifie pas les moyens. Toutes nos actions, elles doivent être alignées avec la sainteté de Dieu, avec qui il est, avec sa nature. Et nous devons agir par la foi. Donc nous rappeler que Dieu est saint et il veut que j'agisse selon sa sainteté, et Dieu veut que j'agisse et que je vive par la foi, en croyant que même si je suis amené à faire un choix qui va être difficile, où il y aura des répercussions contre moi ou contre d'autres, je dois avoir la foi que Dieu, s'il a dit, voici ce que je veux que tu fasses, voici mon plan et mon plan va s'accomplir, je dois avoir la foi que Dieu le fera et de lui laisser toutes ces choses entre ses mains. Le fait est que la Bible ne présente aucun exemple où mentir a été la volonté de Dieu. Il y a des exemples, certes, beaucoup d'exemples, où il y a des personnes qui ont menti, et dans la plupart des cas, les résultats ont été plutôt négatifs. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, et c'est évident que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de mentir, la logique nous montre que le mensonge, c'est la décision de l'être humain, pas celle de Dieu. Le neuvième commandement nous interdit de porter un faux témoignage. Proverbe chapitre 6, hein, versets 16 à 19, mentionne le fait que Dieu a en horreur la langue menteuse, le faux témoin qui profère des mensonges, hein, parmi les sept abominations, hein, aux yeux de l'Éternel. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 13, 6 que l'amour, lui, se réjouit de la vérité, hein, montrant l'importance pour nous chrétiens de nous attacher constamment à la vérité, de proclamer la vérité, de vivre selon la vérité. Et plein d'autres passages encore qui condamnent le mensonge. Un Proverbe 12, 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, hein, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Plus loin, au chapitre 13, verset 5, hein, le juste, hein, celui qui veut vivre dans la justice, il hait les paroles mensongères. Il va pas poursuivre le mensonge, il en a horreur lui aussi. Éphésiens 4, 25, Paul il nous rappelle, hein, renoncer au mensonge. Hein, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Mais je crois qu'il y a un passage, et un passage qui est, on va dire, final, parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse, qui nous montre combien le mensonge est quelque chose qui doit être exclu de notre vie et de nos choix de vie. Apocalypse chapitre 21 et verset 8 nous rappelle que pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et notez bien, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien souvent, les gens minimisent le mensonge. Mais notez bien là où Dieu place le mensonge, il le place avec les lâches, incrédules, abominables, meurtriers, débauchés, hein, magiciens et idolâtres. Quand on prend ces choses en considération, ça doit nous interpeller en tant que chrétiens sur le fait qu'à aucun moment, nous ne devrions opter pour le mensonge, même si, dans notre raisonnement humain, cela pourrait justifier qu'on le fasse parce qu'il y a un objectif qui nous est trop important ou trop précieux. Il faut encore une fois, comme je l'ai dit, différencier entre ce qui est descriptif de ce qui est prescriptif, hein, entre le choix de l'être humain, de son libre arbitre et de la volonté de Dieu, hein, qui sera toujours, toujours en accord avec sa sainte nature. Dieu ne va pas demander des choses qui vont être contre sa nature. Paul, il rappelle à Timothée dans sa seconde épître que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle, il ne peut pas se renier à lui-même. Nous avons un Dieu qui ne change pas, hein, aucun changement, aucune ombre de variation, comme Jacques nous le rappelle. Ou Hébreux qui nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le Dieu saint que nous voyons dans l'Ancien Testament, qui est en horreur le mensonge, c'est ce même Dieu saint que nous servons encore aujourd'hui. Alors oui, les Écritures regorgent d'exemples de menteurs, hein, de la tromperie de Jacob dans Genèse 27, à la supercherie d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes. À maintes reprises, nous constatons que le mensonge a conduit à quoi? Bien plus de difficultés, de souffrances, de pertes de bénédictions, de jugements qui auraient pu et qui auraient dû être évités si ces personnes avaient choisi d'honorer Dieu par la vérité. Alors il y a oui peut-être deux cas où le mensonge ayant été employé on a eu un résultat, on va dire, favorable. Le mensonge des sages-femmes, dans Exode, semble leur valoir la bénédiction du Seigneur et a probablement sauvé la vie de nombreux bébés hébreux. Le mensonge de Rahab pour protéger les espions israélites, hein, dans Josué chapitre 2 et verset 5. Mais cela ne veut pas dire que Dieu cautionne le mensonge pour autant. Malgré l'issue positive, la Bible à aucun moment ne fait l'éloge du mensonge, comme nous venons de le voir. Au contraire, elle le condamne. Elle n'affirme nulle part qu'il existe même des situations où mentir serait justifié. Mais elle nous montre que Dieu, lui, il est patient, il est gracieux, malgré nos mauvais choix. C'est-à-dire que même quand il nous demande de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas correctement ou qu'on s'en écarte un petit peu, Dieu manifeste sa grâce et son amour en nous permettant parfois que, eh bien, je vais quand même t'accorder le résultat favorable. Mais la question demeure, existe-t-il vraiment des situations où mentir est justifié? Hein, souvent, on cite l'exemple hein, de la situation dans la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Hein, par exemple, certains vont argumenter, hein, par exemple, Corrie ten Boom, pour ceux qui connaissent, hein, c'est cette femme néerlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dont la famille a caché des juifs dans sa maison, et qui au final s'est retrouvée hein, dans un camp de concentration. Mais elle a dû être confrontée à des questions de la part des Allemands. Et, soyons honnêtes, elle a opté de mentir. Elle a opté de mentir. Alors certes, les Juifs sont restés cachés, ont eu la vie sauve, mais sa famille en a aussi payé le prix. Alors, lorsque les soldats nazis se sont présentés et lui ont demandé si elle savait où se cachaient les Juifs, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Dire la vérité aurait laissé les nazis capturer les Juifs qu'elle tentait de protéger. Sa famille aurait été arrêtée de toute façon aussi. Elle aurait pu mentir ou nier hein, de tout savoir à ce sujet-là, ou elle aurait pu garder le silence. Dans un tel cas, c'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile, tendue, où dans notre cœur, nous allons penser à toutes les possibilités de ce que ça va produire si je dis la vérité. Et souvent, les personnes vont faire ce calcul, du choix, c'est ce qu'il y a de moins grave. Ou mentir, à leurs yeux, serait sans doute la meilleure solution. Et une telle situation, c'est comparable à ce que nous voyons dans les Écritures avec les sages-femmes et avec Rahab. Dans ce monde corrompu dans lequel nous vivons, face à une situation désespérée, on pourrait raisonner, commettre le moindre mal, le mensonge en l'occurrence, peut et pourrait s'avérer nécessaire pour éviter un mal bien plus grand aux autres ou à nous-mêmes. Il convient de noter toutefois que ces cas sont extrêmement rares. Mais beaucoup vont employer cela pour dire, c'est pas grave si je dis un petit mensonge. Parce qu'on relativise les choses. Parce qu'on se dit, puisque là c'était tolérable de mentir, eh bien pour me sortir d'une situation qui pourrait m'être défavorable ou douloureuse, finalement, c'est peut-être, je vais quand même mentir, c'est pas si grave que ça. En s'appuyant sur ces exemples-là. Mais même dans ces situations, si notre désir, si notre volonté, c'est véritablement d'honorer Dieu en toute chose, il faut être prêt à subir les conséquences de nos choix, de tous nos choix. On peut penser à ce que, oui, nous ferait subir les ennemis de l'Éternel, mais comme je dis, c'est aussi d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, Dieu peut protéger. Dieu peut le faire miraculeusement. Ou tout simplement, il peut nous laisser mourir, nous rappeler à lui. Comme Paul le disait, c'est la meilleure des choses, d'aller auprès du Seigneur. Ou même encore, il peut être là pour nous accompagner dans ces moments extrêmement douloureux, comme il le fait quand même avec Corrie ten Boom. Qui, de ses propres mots, avait dit qu'il n'y a pas de fosse assez profonde, il n'y a pas de situation aussi pourrie qui existe sur Terre où l'amour de Dieu ne se trouve pas. Les compagnons de Daniel, je crois que ça, c'est vraiment l'exemple que nous devons suivre. Pourquoi? Ils auraient pu faire le choix lorsque cette loi immuable des Mèdes et des Perses avait été promulgué que tout le monde devait se prosterner et adorer la statue de Nebuchadnezzar, ils auraient pu faire semblant. Qui est-ce qui l'aurait remarqué? Ils auraient pu raisonner dans mon cœur, non, je veux servir l'Éternel, je crois en l'Éternel, mais je vais faire semblant devant les autres pour avoir la vie sauve. Ils auraient pu avoir ce raisonnement-là, opter pour un mensonge qui... Je ne pense pas que les autres auraient pu y voir quoi que ce soit. Mais ils ont fait ce choix par la foi, ce choix courageux de refuser. À l'instar de Daniel, ils ont choisi d'être fidèles à l'Éternel au risque de leur vie, d'être fidèles jusqu'au bout. Et ils ont dit la vérité. Non, nous, nous servons l'Éternel et nous n'adorons que lui. Quelle était la conséquence? Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, si ardente que même les soldats qui les jetèrent dedans périrent par la chaleur qui s'échappait de cette fournaise. Les Écritures nous disent qu'à ce moment-là, ils étaient dans la fournaise, certes, mais l'Éternel était avec eux. Et rien ne leur arrivait. C'est un miracle extraordinaire. Mais c'est aussi un témoignage puissant de même si nous devons aller dans la fournaise, Dieu est là. Et Dieu les en a sortis de manière miraculeuse, n'est-ce pas? Corrie ten Boom, comme j'ai dit, elle fut tout de même arrêtée, envoyée dans un camp de concentration. Sa sœur même y a péri. Mais on ne sait pas. On pourra toujours essayer. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait dit la vérité? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que voici la loi de l'Éternel, voici qui il est, et voilà ce qu'il attend de nous. D'honorer sa personne et de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Même dans ces situations, il faut bien comprendre que mentir reste quand même un péché. Un péché pour lequel Christ a dû mourir sur la croix, n'est-ce pas? Un péché pour lequel le Seigneur a dû subir l'abomination et la malédiction de la croix, de prendre nos péchés sur lui, d'être maudit. C'est pour ce péché-là aussi. La grande majorité des mensonges sont commis par des personnes qui cherchent à se protéger, ou bien à se mettre en valeur, ou parfois aussi à nuire à d'autres. Et c'est pour ça aussi que la Bible condamne ce péché si clairement, si fermement et constamment à travers les Écritures. Nous devons tous rendre des comptes à Dieu pour nos propres choix. Ce qu'Ehud a choisi de faire, il aurait pu dire « Ô roi, il faut que je te parle. » Et il aurait pu lui dire quelque chose et le tuer. Il aurait pu dire « L'Éternel m'a choisi pour libérer le peuple. » Voilà. Mais il a fait ce choix tout de même, et comme on l'a déjà souligné auparavant dans nos études, que dans ce livre des juges, nous voyons, oui, la nation d'Israël être libérée, mais nous voyons aussi des juges qui n'ont pas forcément été à la hauteur spirituelle de celle que Dieu attendait d'eux. La délivrance d'Israël, nous la voyons dans les versets 27 à 30, lorsqu'effectivement, dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Alors, il y a plusieurs choses à noter ici dans cette délivrance, dans cette libération. Lorsque Ehud sort de la présence du roi, sort du palais, il va faire sonner, la trompette va sonner, et ça donne un signal, n'est-ce pas? En Israël, lorsque on sonnait de la trompette, il y avait plusieurs raisons pour cela. On pouvait, par exemple, annoncer un exploit. On pouvait signaler un changement de lieu. On pouvait utiliser ça pour exprimer sa joie et louer le Seigneur. Mais c'était aussi utilisé pour appeler le peuple à la guerre. Et c'est ici, ce qui se passe. Dieu avait entendu les prières d'Israël et avait suscité un libérateur, Ehud. Ehud qui a fait le premier pas vers la victoire. Lorsqu'il s'est débarrassé un peu de la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il a coupé ce qui était le plus dangereux, mais il restait encore à détruire le reste. Le danger souvent qui guette les chrétiens, parce que nous avons vu la dernière fois par rapport à ce passage, que ça représente aussi cette lutte que nous pouvons avoir vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la chair. Et est-ce que les Écritures nous enseignent, c'est que oui, il faut mettre à mort cette ancienne nature. Il faut nous dépouiller du vieil homme, il faut s'en débarrasser, coûte que coûte, et ne pas laisser des traces, enlever, de laisser quelques petites choses ici et là, mais d'enlever tout complètement. Et le danger, souvent, c'est que nous n'allons pas jusqu'au bout. Et là, maintenant, l'épreuve, c'était de voir s'ils allaient suivre, l'homme de Dieu. Et ils l'ont fait, ils ont remporté cette grande victoire. C'est un combat qui a été extraordinaire tout de même, parce que 10 000 hommes de Moab ont péri. Et c'était pas juste des paysans avec des fourches, là on parle de soldats, d'hommes robustes, d'hommes qui étaient vaillants. Et malgré leur puissance, leur capacité militaire, ils furent vaincus par Israël, car... qui leur a donné la victoire? Est-ce Ehud? Est-ce l'armée d'Israël? Non, Il nous est dit même dans ce passage que c'est l'Éternel qui a donné la victoire à Israël. Et ça, il faut que nous nous rappelions de cela. Nous sommes appelés à lutter, hein, contre le péché, à lutter contre notre nature pécheresse. Mais la victoire, elle n'est possible qu'avec l'Éternel. C'est-à-dire que si nous essayons par nos propres forces, on va être voué à l'échec. La victoire d'Israël a quelques leçons à nous enseigner, hein, sur nos propres combats contre le péché. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir la victoire spirituelle contre le péché, n'est-ce pas? Il nous a donné sa parole, il nous a donné l'Esprit Saint, il nous a donné la prière. Et si nous ne nous soumettons pas à sa volonté, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, hein, nous qui vivons par l'Esprit, on ne pourra jamais remporter les victoires spirituelles. Mais en le suivant humblement et fidèlement, eh bien, nous aurons la victoire. On ne doit pas craindre ni la taille, ni la puissance de nos ennemis, mais nous devons les combattre en sachant que notre Dieu est plus grand que toute chose et qu'il est présent avec nous. Nous ne devons pas tolérer dans notre vie quelque trace que ce soit du péché, hein, de cette vie charnelle, de tout vestige de ce qui nous qualifiait autrefois, avant que Christ nous est racheté. Nous devons vivre chaque jour, même en haïssant, hein, le vêtement souillé par la chair, comme Jude nous le rappelle. Alors pour conclure, nous avons tous des problèmes avec la chair, des luttes spirituelles. Et ce que nous voyons à travers, hein, ce passage de la vie d'Israël à l'époque d'Éhud, c'est que finalement nous sommes pas si différents, encore une fois. Nous sommes tous des vainqueurs improbables comme Éhud, hein, qui avait ce handicap. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous sujets à l'échec spirituel. Mais comme Éhud, nous pouvons marcher dans la victoire, même si cette marche va être imparfaite. Hein, ne pensez pas que déjà, pour notre salut, Dieu exige une foi qui soit parfaite. Mais une fois notre salut accordé et accompli par Christ, notre foi doit viser la perfection. Mais Dieu sait très bien que notre foi ne va pas être parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on emploie ça comme excuse, bah, je fais ce que je veux finalement. Non. Parce que nous devons nous rappeler et considérer ce que Christ a subi pour que nous puissions être rachetés, n'est-ce pas? Mais ainsi, nous comprenons que Dieu peut nous employer malgré notre faiblesse, malgré notre imperfection. Il veut tout de même que nous marchions par la foi, que nous cherchions constamment à faire ce qui est juste à ses yeux, en nous dirigeant, hein, d'après sa parole. Le fait est que Christ ne veut pas que nous soyons des victimes face au péché. Il veut que nous soyons vainqueurs et il a accordé tout ce qu'il nous faut pour être vainqueurs. Israël, dans l'histoire d'Israël, Israël avait tout pour être vainqueur, avait tout pour avoir le pays en entier, avait tout pour ne pas avoir qui que ce soit qui viendrait les embêter comme ça a été le cas pendant cette période de 350 et quelques années, hein, cette période des juges. Mais ce que nous voyons, encore une fois, est ce qui est, on va dire, répétitif, hein, dans ce livre des juges, c'est que la grâce de Dieu sera toujours présente. La force de Dieu sera toujours à notre disposition. Et malgré la grandeur ou la puissance qu'un ennemi peut avoir, nous avons un Dieu qui, lui, est tout-puissant. Donc nous n'avons plus d'excuses. Et à ce titre-là aussi, nous n'avons même pas d'excuses pour dire je vais choisir le mensonge et puis advienne que pourra. Non. Nous devons même avoir la foi que, comme les compagnons de Daniel, moi je vais dire la vérité. Peu importe ce qui arrive, je veux honorer Dieu. Et Dieu peut choisir de libérer. Dieu peut choisir de nous rappeler à lui ou nous faire subir, hein, ce que les ennemis veulent nous faire subir. Peu importe. Je crois que si nous comprenons bien ce qu'est le péché qui mène à la ruine, qui mène à la mort, à la destruction, si nous avons bien compris cela, et nous avons bien compris qui est Dieu, qui est la vie, qui est saint, qui est pur, qui est parfait, je crois que le choix que nous ferons face dans le cours de notre vie, eh bien c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Et peu importe le choix que nous ferons, Dieu honore celui qui l'honore. C'est aussi simple que ça. Et la question pour chacun de nous maintenant, c'est est-ce que je veux bien honorer Dieu par ma vie, toute ma vie?